Nous allons faire la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 9. Ah oui. Vous allez voir apparaître tous les points. Ah oui, quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est que j'en ai plein les yeux de lumière. Oh, je vais me pousser un peu. Justement, je vous parle sur la lumière et sur les aveugles. Ça tombe bien. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Nous connaissons bien ce texte. Et depuis le commencement du mois de mars, nous reprenons des sujets, je ne veux pas dire simples, mais fondamentaux, pour que chacun de nous, les plus récents parmi nous, et ceux qui se préparent, les 16-18 personnes qui se préparent pour le baptême aussi, et pour que les plus anciens parmi nous puissent reposer dans leur cœur les pierres fondamentales. Car on ne bâtit pas sur du sable. Dieu n'est un bon bâtisseur, il bâtit sur du solide. Alors, nous faisons cette lecture, Jean 9, versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Je dis déjà un amen pour cela. Et puis au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, parce que ce miracle magnifique, eh bien, ça a provoqué beaucoup de grincements de dents. Peu de gens se sont réjouis de ce miracle. Et quelque temps plus tard, Jésus le retrouve. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit : Je crois, Seigneur. Et il l'adora. Amen. Bah, dites donc, c'est simple, hein, comme conversion. On aimerait bien que les gens nous disent : Où est Jésus pour que je croie en lui ? Ben, il est là. Amen, c'est fini. Prions le Seigneur quelques instants devant la parole. C'est ta parole, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donnée pour qu'elle nous serve de chemin, de vérité, de vie, et qu'elle soit pour nous un encouragement à croire en toi, parce qu'en croyant en toi, nous avons la vie toujours, la vie de Dieu, la vie éternelle. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs ce matin devant ta parole, par le Saint-Esprit qui nous a été donné pour l'éternité des temps. Amen. La première question, bien sûr, sommes-nous aveugles ? Vous connaissez les premières paroles du diable ? La Bible commence avec les paroles du diable. C'est effrayant, hein ? Les paroles du diable, tout au commencement des temps, premier jour de l'histoire du monde. « Vous ne mourrez pas, dit Satan. Vos yeux s'ouvriront si vous prenez de l'interdit, si vous prenez ce que Dieu a défendu. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Ça, c'est dans la Genèse au chapitre 3. Tout est mensonge. Nous mourons, nos yeux se sont fermés, on est devenu aveugle, et nous ne sommes pas des dieux. Ou si nous sommes des dieux, nous avons tout cassé. Tout est mensonge. Le diable aveugle notre intelligence. Pour que des gens disent, je reprends les paroles des psaumes, Dieu ne voit point, Dieu ne punit point, il n'y a pas de Dieu, on a ça dans les psaumes, c'est un aveuglement. Il y a eu un roman qui a été écrit qui s'appelle « L'aveuglement ». Et dans cette histoire, il y a un homme qui, au volant de sa voiture, tout à coup, il est tombé aveugle. C'était une épidémie qui commençait dans le pays et tout le monde est tombé aveugle instantanément. C'est effrayant, hein ? Il n'y a qu'une dame qui n'est pas tombée aveugle, c'est tout. Et dans cette calamité, cette épidémie terrible, les gens ont révélé ce qu'ils étaient. Ils étaient durs avec les autres, ils se heurtaient les uns contre les autres, ils étaient méchants, ils étaient violents. Puis un jour, il y en a un qui a dit, « Eh bien, on n'est pas devenu aveugle, on l'était déjà, et on ne le savait pas. » Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils s'y révélaient tout ce qu'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes, aveugles. Vous ne savez pas que vous êtes aveugle. Je crois que c'est une maladie grave de l'être humain en général, et certainement que parmi nous, il y a encore des gens aveugles, et on a besoin d'être guéri par le Seigneur, puisqu'il nous a été envoyé en disant « Je viens pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. » Et je me suis posé la question moi-même, ai-je besoin d'être guéri de mes yeux ? Je porte des lunettes déjà, c'est pas un bon signe, mais des yeux de mon cœur. Voir clair, c'est pas seulement regarder les choses. D'ailleurs, quand on regarde, on voit souvent l'apparence des choses. On dit toujours combien ça coûte, combien ça coûte. On voit la surface. Voir, c'est entrer en profondeur, c'est discerner, c'est voir ce que nos yeux charnels ne voient pas, c'est admirer ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si vous admirez toujours ou si vous dites c'est beau comme paysage, en admirant la signature de Dieu. Dieu voit que cela est bon, Dieu regarde sa nature, sa création, ses œuvres, les humains, il les regarde. Regardons-nous vraiment les choses. On est aveuglé par tellement d'images, on en a plein les yeux, un tel point que nos yeux se sont déformés. On ne voit plus les choses importantes de Dieu, les êtres humains, les souffrances des autres. On a besoin aussi de retrouver le regard du cœur pour voir Jésus invisible. Chaque fois que nous sommes réunis dans son Église, il est au milieu de nous. Amen. Vous le croyez ? Il faut le voir. Parce que sinon, nous allons venir pour dormir et repartir en dormant. Il faut voir, chaque fois qu'on ouvre la parole, Jésus est présent. Chaque fois que la prédication est donnée, je dis, Jésus est avec nous. Jésus accompagne mon ministère, votre ministère, parce que le Seigneur est présent dans son Église. Il faut le voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Amen. Et Jésus qui disait, quand vous verrez ces choses arriver, les choses difficiles de la fin des temps, est-ce que nous les voyons ? Est-ce que nous nous rendons compte de la pesanteur du mal qui est aujourd'hui sur le monde ? Ou est-ce que nous sommes avec nos portables et nos internets en train de regarder les fleurs et tout ce qui est jeu ? Quand vous verrez ces choses, voyons-nous le bien et le mal ? À Ninive, il y avait 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Mais on pourrait traduire 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer le bien et le mal. Et aujourd'hui, nous avons un aveuglement sur le bien et le mal. D'ailleurs, on dit que le bien, eh bien, c'est mal et le mal, c'est bien. Il faut que nous voyions autour de nous, dans nos difficultés, les chars du Seigneur qui sont comme sur les collines avec Élisée le prophète, les chars de Dieu, la présence de Dieu, le bouclier de Dieu qui nous entoure. Il nous faut des yeux guéris. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Mais la lumière ne suffit pas. Il faut des yeux pour voir la lumière. Mon grand-père était aveugle, je pense que c'était un problème à l'époque de diabète. Brusquement, en travaillant dans l'entreprise où il était, tout à coup, il est tombé aveugle en quelques instants. Alors on était habitué à ce qu'il nous prenne, qu'il nous touche, tout passait par le toucher. Nous étions là et il ne le voyait pas. On a la lumière et on a besoin des yeux pour la voir, on a besoin des yeux du cœur. Permettez-moi de vous dire très brièvement l'histoire de l'aveugle de Jérusalem. Avec ce premier point, on va parler de l'aveugle de Jérusalem. Pour quel péché est-il tombé aveugle ? Pour quel péché ? La lumière est devant lui, c'est Jésus. Mais il a besoin d'être en relation avec le Christ. Il a besoin de le voir. Jésus est avec vous toujours. Jésus vous regarde toujours. Vous avez besoin de le voir aussi pour vous convertir au Christ. Ce qui m'a choqué quand même dans cette histoire, beaucoup de choses qui me choquent, c'est que les apôtres n'ont pas réconforté ce pauvre aveugle de naissance. Ils ne savaient pas ce que c'était que le bleu, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un oiseau, une étoile. Les apôtres ne l'ont pas réconforté en disant « Le maître est là, prends courage, il t'appelle ». Sont-ils aveugles de cœur ? Il y a peut-être plus d'aveugles qu'on pense. Ils ne voient pas la souffrance de cet homme, ils ne le regardent pas, ils ne lui parlent pas. Enfin, ils ont dit une parole, pas à cet homme, mais à Jésus. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu ? Quel péché a-t-il commis ? Qui a péché ? Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Parce que pour eux, être aveugle, ça veut dire qu'on a péché. Parmi nous, aujourd'hui, nous devrions tous être aveugles. C'est terrible. La ville de Rennes n'irait pas voter aujourd'hui, elle serait toute aveugle. Comment penser que cet aveugle aurait pu pécher avant de naître ? C'est bien, parce qu'il considère quand même que dans le sein de sa mère, cet homme était quand même capable de réfléchir. Donc il croyait dans le fœtus, personne humaine. Mais quelle aberration de penser que dans le sein de sa mère, cet homme aurait pu pécher, mentir, ou voler, ou tricher, ou je ne sais pas. Comment ? Quelle aberration ! Nous avons toujours cette tentation, frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Je l'ai déjà constaté au milieu de nous, la tentation d'expliquer la souffrance personnelle, la souffrance personnelle avec un péché. J'ai une sciatique, quel péché j'ai commis. J'ai mal aux dents, quel péché j'ai commis. Non ? Je perds mes cheveux, quel péché j'ai commis. Ça va ? Vous voulez que je continue la liste ? Parce que des gens me l'ont dit. On a dû certainement pécher pour être comme cela. Alors, si on dit cela, on ajoute sur les gens une culpabilité. Parce que non seulement ils souffrent, mais en plus, ils se disent, mais enfin Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis coupable. Et puis c'est dangereux, parce que les gens qui sont en bonne santé, ils se disent, ben moi, je ne suis pas coupable de rien. La preuve, c'est que je suis en bonne santé. Je suis béni de Dieu. Et le pauvre malade à côté, il doit se dire, ben, je ne suis pas béni de Dieu. Moi, je dis que le malade peut dire, je suis béni de Dieu. Vous ne trouvez pas ? Amen. Et puis merci Seigneur pour ceux qui ont la santé aujourd'hui. Eh bien, que Dieu vous la garde, mais elle va disparaître un jour. Je suis pessimiste, non ? Ça va ? Nous sommes aveugles, mes amis, sur beaucoup de choses, la preuve. Et le Christ, lui, il nous présente un Dieu qui n'est pas vengeur, qui n'est pas punisseur, un Dieu de salut. Et il va arrêter ce fatalisme des apôtres en disant « c'est pas lui qui a péché, ce sont pas ses parents, pourtant ils ont dû pécher ». Mais le Seigneur ne fait pas de connexion entre un mal personnel et un péché personnel. Bien sûr, si je m'expose au froid, je risque une pneumonie, c'est vrai. Mais le Seigneur ne fait pas de rapprochement. Si je vois un homme qui tombe dans la rue, devant moi, je peux me poser deux questions. Première question, quel mal a-t-il fait pour tomber ? Il cache quelque chose. Deuxième question, comment le relever ? Quelle question vous posez-vous ? La deuxième, comment le relever ? Et Jésus nous montre un Dieu de salut, pas un Dieu vengeur. Un Dieu qui déclare juste ceux qui sont pécheurs. Il ne dit pas que nous sommes sans péché, mais il nous considère comme des justes, comme étant agréables à Dieu, enfants de Dieu, comme l'enfant prodigue qui revient de sa cavale et qui est tout sale et tout puant. Et quand il revient, eh bien, le père a dit « mon fils que voici ». Il l'a déclaré, il l'a considéré, malgré qu'il était en mauvais état, il l'a déclaré comme son fils juste. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à bien considérer les autres. Amen. Et si, oui, si quelqu'un voit son frère manger, eh bien qu'il ne le juge pas. Si quelqu'un voit son frère qui ne mange pas, qu'il ne le juge pas. Et si nous voyons des malades, ne les jugeons pas non plus. Amen. Le Seigneur dit également, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a des souffrances qui font que Dieu va faire quelque chose, va faire une œuvre. Il va faire un travail de réparation. Je ne veux pas considérer le passé des gens, mais l'avenir. Dans le passé, il y a eu des déchirures, il y a eu des souffrances. Je regarde l'avenir. Dieu va réparer. Il nous répare jusqu'à notre résurrection. Mais dites-moi, le péché rend quand même aveugle, vous ne trouvez pas ? Non ? Moi, je crois quand même. Pas des aveugles des yeux physiques, mais aveugles de l'âme. Le péché aveugle. Paul, quand il a eu la vision du Christ sur le chemin de Damas et qu'il est tombé par cette forte lumière comme celle du soleil, eh bien, il est dit que des écailles sont tombées de ses yeux comme un miracle pour dire, eh bien, tu étais aveugle, Paul, tu étais dans l'ignorance et tu ne le savais pas. Je pense que le péché aveugle. Et je pense que nous avons beaucoup de choses dans les yeux, mais nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs, dit le prophète Ésaïe. La troisième chose que j'aimerais vous dire maintenant, la deuxième du point de la prédication, la boue. Pour dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Vous avez vu l'histoire avec moi ? L'aveugle n'a rien demandé. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il ne l'a su que longtemps après. Il n'a pas prié. Jésus a fait le premier pas. La grâce de Dieu est toujours première. Ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent « J'ai cherché Dieu et puis j'ai fini par le trouver. » J'aimerais leur dire « Dieu vous a cherché, il vous a trouvé. Amen. » Parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on a la foi. Devant la grâce de Dieu, on a été conduit à l'aimer. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi, qui avons décidé. C'est lui qui nous a cherchés. Amen. Donc le pauvre aveugle, là, il ne demande rien. Le Christ fait le premier pas. L'amour du Christ ne dépend pas du bien et du mal que nous avons fait. Vous avez vu comment il fait ? Il a craché par terre. Ne crachez pas par terre, j'aime pas ça. Et vous, je trouve qu'il y a en ce moment beaucoup de gens qui crachent dans les rues, je trouve ça désagréable. Enfin, le Christ a craché par terre. Et puis il s'est abaissé et puis il a fait un peu de boue avec sa salive. Il s'est abaissé. On ne le voyait plus. Il s'est abaissé plus bas que l'aveugle. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Amen. Et puis là, il a fait un peu de boue. Mais l'aveugle a dû ressentir qu'il s'abaissait. J'ai rencontré des aveugles, j'ai parlé avec des aveugles qui me disaient, vous êtes grand comme ça, et vous, vous êtes là. Et ils ressentent par la parole, ils ressentent par, je ne sais pas, je ne suis pas aveugle pour sentir tout cela, ressentent la présence. Il s'est abaissé. Et puis il a mis ses doigts, ses mains, avec ce petit peu de boue qu'il avait au bout des doigts, il l'a mis sur les yeux, sur les paupières, il l'a mis sur le visage, il a dû caresser le visage, il a dû appliquer la boue. Et là, je vois dans ce geste toute l'amitié qu'a dû ressentir l'aveugle, pas vous ? Parce que cet aveugle, il était méprisé, c'était un pécheur, il avait fait des choses malhonnêtes, tous ses parents, et puis il était mendiant, personne n'en voulait. Et je pense que ce geste l'a valorisé. Il a dû dire, je compte pour quelqu'un. Quelqu'un s'intéresse à moi. Il faut toucher les gens. Il faut leur parler. Il faut leur prendre la main. Il faut les saisir. La boue. Je repense à la Genèse, quand Dieu a fait l'être humain à partir de la poussière. Il a soufflé pour donner un souffle de vie. Le Créateur, là, le Christ, est en train de réparer sa création. Il achève sa création. Vous savez, nous ne sommes pas achevés. Il y a des choses en nous qui ne sont pas encore finies. Le monde n'est pas terminé. Notre vie n'est pas encore complète. Nos pensées, il y a une suite, on attend, on est en train d'accoucher de quelque chose d'autre. Il y a une transformation qui se fait en nous, qui finira par la résurrection. Parce que l'être achevé, c'est l'être humain avec Dieu en lui, non ? Dieu en lui. Un fœtus n'est pas achevé. Mesdames, vous n'allez pas garder votre fœtus pendant 40 ans. Enfin, qu'il sorte et puis qu'il achève, qu'il continue sa progression. Un enfant est inachevé. Et je suis sûr, mes sœurs qui avaient eu des enfants, nos 35 enfants, on ne pourra pas les oublier, hein, sont tous là-haut actuellement. Eh bien, ces enfants-là ne sont pas terminés. Heureusement, parce que si vous pensez qu'il faut qu'ils arrêtent là, ce serait terrible, ce serait monstrueux. Même un vieillard n'est pas terminé. D'ailleurs, souvent, il dit, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Un grand peintre, Ingres, un grand peintre, il a travaillé ses peintures toute sa vie, il avait plus de 80 ans. Et puis quelqu'un lui a dit, ben maintenant vous devez être au top, quoi. J'apprends toujours. On n'est jamais achevé. Et je pense qu'on est achevé quand par le Christ. Le Christ, c'est lui qui accomplit notre vie, qui parachèvera notre vie, qui mettra l'apothéose dans notre vie. On attend le Christ. La création attend la venue de Jésus-Christ pour être achevée et nous l'attendons pour être l'homme nouveau, le ressuscité de la gloire de Dieu. Amen. Deux tampons de boue sur les yeux. Cet homme est complètement prisonnier des ténèbres. Non seulement ses yeux sont malades, ils sont handicapés, mais en plus Jésus en rajoute. Comme pour dire, vraiment, nous sommes prisonniers des ténèbres. Seigneur, délivre-nous des ténèbres de ce monde afin que nous voyions clair. Nous sommes prisonniers d'une mentalité, de paroles qu'on se dit, qu'on répète, de crainte, de doute. Seigneur, délivre-nous. Mais vous ne trouvez pas, frères et sœurs, que pendant que le Christ lui met la boue sur les yeux, vous ne trouvez pas qu'il a dû y avoir, je pense, des lueur d'espérance en lui. Il a dû ressentir cet amour, cette amitié, cette douceur. Il a dû ressentir que quelqu'un s'intéressait à lui sans le juger. Il a dû ressentir ces grâces-là. Martin Luther disait ces grâces prévenantes. La prévenance, ça veut dire on fait attention aux gens, on va un petit peu au-devant d'eux, on est prévenant. Et je pense que Dieu est prévenant avec nous. Je pense que pour qu'on le connaisse, il nous envoie des grâces naturelles qui nous prédisposent, qui nous préparent, qui nous appellent. Je pense que si on a un message dur et fort et terrible, un message qui bouscule, qui assassine, qui accuse. Je pense que les gens vont se replier en disant « Oh, c'est trop fort pour moi, c'est trop dur pour moi ». Mais si nous sommes accueillants, si nous sommes agréables, eh bien je crois que ce sont des grâces prévenantes de Dieu, comme le toucher de Jésus sur les yeux de l'aveugle. Un aveugle sent les choses différemment. on va aller visiter bientôt des aveugles. Et j'ai toujours été surpris quand je les vois chanter avec leurs cantiques ou quand je les vois lire la Bible. Ils lisent à la vitesse avec le doigt. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent sentir? C'est pas possible. Moi, je mets mon doigt, je sens rien du tout. Quelques petits grains, là, quelques petits grains de sable, c'est tout. L'aveugle a dû ressentir la douceur, non? Parce que là, ils sont très sensibles. L'aveugle voit avec sa peau. Il a dû ressentir une présence discrète, attentive de Jésus. Je souhaiterais que pendant ces conférences de carême, pour toute l'évangélisation que nous menons à Rennes depuis déjà un moment et qui continuera jusqu'au retour de Jésus, ce serait formidable si les gens pouvaient ressentir une présence chaleureuse, chrétienne, qui ne juge pas, qui s'intéresse à eux, qui ne condamne pas, pour que, en sortant, ils gardent au moins ce message, eh bien, Dieu te voit, Dieu est proche, Dieu te prend par la main, Dieu s'intéresse à toi, Dieu est avec toi. Amen. C'est cela qu'il faut faire passer, ce message, comme Jésus, à travers la boue et les mains sur le visage, avec délicatesse. Puis on arrive maintenant à cet épisode fameux, Siloé, la foi, obéissance aveugle. Pardonnez-moi le jeu de mots, hein, obéissance aveugle. Quand il a eu sur les yeux la boue et qui devait un peu couler, peut-être un peu, Jésus lui a dit, va te laver la figure. On disait autrefois, va te débarbouiller. Vous n'avez jamais dit ça? Va te laver la figure à la fontaine de Siloé. Mais il ne lui a pas dit, et tu verras clair. Il lui a simplement dit, fais ce que je te dis. Alors il faut vraiment avoir une certaine foi déjà, non? Avec des crachats sur la figure, avec de la boue sur les yeux. Et puis il ne lui a pas dit, quelqu'un va te conduire, tu es aveugle, on va te conduire. Va te laver. Je pense que quelqu'un l'a conduit. Non, mais un aveugle peut se diriger tout seul aussi. Va te laver. Il faut aller jusqu'au bout du parcours. Il faut persévérer. Parfois, je prends la Bible et je cherche la parole de Dieu pour vous, pour moi. Et je suis là comme un aveugle qui tâtonne. Et je ne veux pas me décourager jamais. Je relis, je recommence, je vais ailleurs, je suis, je prie. Je suis comme dans un chemin, comme dans une ville. Il y a 100 000 chemins. Et puis, je cherche la voie du Seigneur. Mais le Seigneur nous conduit, amen. Et je pense que à travers cela, il va nous montrer exactement ce que vous avez besoin et ce que j'ai besoin. Il a obéi à la parole de Jésus, de l'inconnu. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il a fait une démarche de foi. La foi, c'est une obéissance. La foi, c'est savoir qui est Jésus. La foi, c'est une relation avec Jésus. La foi, c'est un dialogue avec Jésus. Et cet homme a obéi. Si j'ai la foi, je vais respecter ce qu'il me dit. Je vais le prendre, je vais me dire, tout ce qu'il dit est véridique. Je vais lui faire confiance. C'est toi qui as raison, Seigneur. Ce que tu me dis, je le ferai. Parce que j'ai confiance en toi. Si je n'ai pas la foi, je vais le prendre pour un incapable. Je vais faire les choses moi-même. Je ne vais jamais me confier en lui. Je n'aurai pas confiance en lui. Mais la foi, elle dit, elle fait, elle obéit. Que Dieu nous bénisse dans la foi. Amen. Siloé, c'était un réservoir. On dirait aujourd'hui un château d'eau. Un réservoir, une fontaine qui alimentait Jérusalem en eau. Et ce mot Siloé, il a un sens, vous le savez. Il veut dire envoyé. C'est écrit dans la Bible. Donc c'est comme si le Christ lui disait, va vers l'envoyé. Et tu verras clair. L'envoyé, c'est qui? C'est Jésus. Va vers le Christ. Et tu verras clair. Je voudrais vous poser la question, avez-vous perdu Jésus de vue? Est-ce que chaque jour, vous le voyez dans vos chemins? Est-ce que vous le voyez dans vos maisons? Est-ce que dans votre lecture de la parole, vous le voyez vous parler ? On peut le perdre de vue et n'avoir qu'une religion, avec des offices et puis c'est tout. Il faut retrouver la vision du Christ en nous. Ce n'est pas la boue qui a guéri l'aveugle. Hein. Ce n'est pas la salive qui a guéri l'aveugle. Ce n'est même pas l'eau de Siloé qui l'a guéri. C'est la volonté du Christ. C'est la parole de Jésus. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, à vous qui prendrez le baptême bientôt, vous qui l'avez pris depuis peut-être des années, plongez vos regards, vos yeux dans la Bible. Qu'elle lave vos cœurs et vos yeux. C'est le collyre qui permet de voir juste, qui met les pensées bien en place, qui remet les sentiments bien purs. C'est une purification que la Bible. Jésus disait, vous êtes purs parce que je vous ai donné la parole. Vous êtes purs parce que je vous ai donné la parole. Enfin, je conclue avec les yeux du cœur. La foi est une rencontre avec Jésus. Cet homme est guéri. Dès qu'il a mis l'eau de Siloé sur son visage, l'eau fraîche, là, devant tous ceux qui l'entouraient, il a vu clair. Mais il ne sait pas qui est Jésus. Non seulement il ne sait pas qui l'a guéri, mais il n'a jamais vu Jésus. Il ne voit que la création. Il a besoin de voir le Créateur. Il faut voir au-delà de ce que nos yeux voient. Il faut que les yeux du cœur soient plus forts que les yeux de la chair. On peut passer sa vie à aller au cinéma, regarder la télé, regarder des matchs, visiter des pays. Nos yeux, nous sommes faits pour voir Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Votre vocation, c'est de voir Dieu. Pas seulement recevoir quelque chose de Jésus, mais le recevoir lui-même. Jésus lui dit, il le voit là, il a été très bousculé par les pharisiens, il a été exclu du temple, exclu de la synagogue, enfin, oh, je ne vous dis pas toute l'histoire. Jésus le rencontre, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ? En pleine rue comme ça. Jésus est comme tout le monde, il n'a pas des vêtements particuliers, il n'a pas un visage particulier, totalement homme, totalement Dieu. Encore aujourd'hui, totalement homme, totalement Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu ? Et l'aveugle, il le regarde, parce que maintenant, il sait voir. Hein. Qui est-il pour que je croie en lui ? Alors là, je trouvais ça mais fabuleux. Qui est-il ? Je suis prêt à croire en lui, mais il est où ? J'aimerais qu'on me dise ça dans Rennes partout. Et vous, je veux bien croire, mais montrez-moi le chemin. Là, je loue le stade carrément. Hein. Montrez-moi, dis-moi où il est. Tu l'as vu, dit Jésus. Et là, je pense que cette parole, c'est la même puissance, c'est la même force que quand le Seigneur a dit au commencement du monde que la lumière soit. Tu l'as vu. Il y a eu une guérison intérieure, une conversion intérieure, une création intérieure. Ses yeux du cœur s'ouvrent. Mes yeux s'en sont ouverts un jour aussi. Et je les ai fermés juste après parce que j'ai passé ma nuit blanche à pleurer tellement j'étais heureux d'avoir trouvé le Seigneur dans mes 14 ans. Je dis ça pour ceux qui ont 14 ans parmi nous. Seigneur, donne-nous le collyre qui guérit. Non, ne trouvez pas ? Je te conseille d'acheter du collyre, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Il faut acheter, c'est-à-dire qu'il faut y donner un petit peu de sa peine. Il ne faut pas seulement regarder la couverture de la Bible, il faut l'ouvrir, il faut la lire, il faut prendre du temps, il faut donner. Ôte les écailles de nos yeux, Seigneur. On est tellement pris par nos soucis de travail, soucis familiaux, tellement pris par les occupations du monde, les élections, le sport. On est tellement pris qu'on ne voit plus Jésus. Seigneur, enlève les écailles de nos yeux, Seigneur. pour que dans nos chemins d'Emmaüs, parce qu'on a tous des chemins d'Emmaüs, des chemins de tristesse, des chemins où on ne comprend pas, des chemins où on se dit, mais je ne sais pas, je ne comprends pas bien comment, Seigneur, tu me conduis, qu'au moins dans ce chemin de questionnement, que l'on puisse voir avec nos yeux le Seigneur qui marche avec nous. Amen. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux quand parfois on est dans le désert, pour qu'on puisse te voir dans le buisson d'épines. Parfois, ne trouvez pas que tout est épineux. Tout est compliqué, on n'arrive pas à avancer, on se pique toujours. Quand on recule, on se pique. Quand on avance, on se pique partout. Ouvre mes yeux pour que je te voie dans le buisson d'épines, dans le buisson ardent de Moïse. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, quand je suis dans la fournaise ardente et que là, je suis vraiment malheureux, dépressif, triste, abattu, mais que je te vois avec moi, Seigneur, marcher dans le feu comme les amis dans la fournaise ardente. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je voie l'invisible face à la catastrophe, au déclin de notre temps. Mais je veux te voir, toi, qui viens sur les nuées du ciel. Amen. Ouvre mes yeux. Et puis un jour, quand mes yeux seront lavés complètement de leur boue, on a de la boue sur les yeux, non? Quand mes yeux seront purifiés de la boue par ton pardon et par ta parole et par le Saint-Esprit qui vit en nous éternellement, Seigneur, je te verrai face à face. Amen. Et là, je serai semblable à toi. Amen. Encore un peu de temps, dit Jésus, et vous me verrez. Vous me verrez. Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Cela veut dire, j'apparaîtrai en lui. Jean 14, j'apparaîtrai en lui. Jésus disait avant de mourir, sa dernière prière, je te prie afin qu'il voie ma gloire. Je pense que la plus grande beauté du ciel sera Jésus. Amen. Et la deuxième beauté du ciel, vous savez qui ce sera? Vous ne me regardez pas. Et vous? Non? Venu de l'abîme et de l'enfer du péché, nous serons semblables à Jésus-Christ. Amen. Parce que nous l'aurons vu. Que le Seigneur illumine notre esprit et qu'il nous donne de le voir dans tous nos jours, dans tous nos jours et toutes nos nuits. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous te voyions. Nous sommes encore dans le temps de la foi où nous avons la certitude des choses qu'on ne voit pas. Mais nous voulons te voir dans notre vie, avec nos yeux intérieurs. Nous voulons voir la belle espérance que tu nous prépares dans le royaume d'en haut. Nous voulons voir les grâces que tu places sur notre chemin chaque jour. Si le péché nous aveugle, Seigneur, pardonne-nous et redonne-nous la vue. Si le diable nous aveugle, Seigneur, délivre-nous et mets ta lumière dans notre cœur. Garde les familles attachées à toi et à ta parole. Garde les pères et les mères attachés à la prière pour leurs enfants. Garde-nous les yeux ouverts sur les drames, les tragédies, et la mentalité de notre monde pour que nous soyons vigilants et priants. Seigneur, garde nos yeux ouverts sur l'Église et sur ta marche au milieu d'elle. Amen. Garde nos yeux ouverts sur les frères et les sœurs en souffrance. Merci Seigneur. Amen.